Chapitre 12. Depuis combien de temps est-ce que je pleure? Une heure, deux heures? Je n'en ai aucune idée. Je ne me souviens même pas d'être allée m'allonger sur mon lit, en position fœtale après avoir accroché au nez de ma mère. Pourtant, c'est bien là que je me trouve, la vue brouillée et les joues mouillées de larmes. Suis-je condamnée à revivre sans cesse cet accident? Tout est encore si clair dans ma tête. Les cris, les odeurs d'hôpital et le visage blafard de Meryl dans ce lit beaucoup trop grand. Que pourrait bien m'apporter ce procès si ce n'est d'ajouter de la haine à la souffrance? Je sens soudain une petite langue me lécher le bas du visage, puis au bout de quelques secondes, neige se niche au creux de mon cou, ce qui a pour effet de me faire pleurer de plus belle. Une main chaude se pose alors sur mon bras. Qu'est-ce qui vous rend aussi malheureuse, chère Roxane? Je me redresse et découvre devant moi un goénolé inquiet. Pardonnez mon intrusion, mais la porte était mal fermée. Cette petite boule de poil m'a d'ailleurs précédée, la coquine, dit-il en accordant à la chienne une caresse. Monsieur Frédéric était soucieux à la suite de votre départ. Apparemment, il a dit quelque chose qui vous a blessé. Je lui ai proposé d'aller vérifier que vous alliez bien. Je m'apprêtais à frapper quand Neige s'est faufilée. Je vous ai entendu pleurer. Qu'y a-t-il, Roxane? En parler vous fera du bien. Croyez-en mon expérience. Sauf que vous n'êtes pas responsable du drame que vous vivez. Moi, si. C'est peut-être ce que vous croyez, mais je suis certain qu'il n'en est rien. Pourquoi? Vous ne savez rien de moi. Si je vous dis que je suis responsable de la mort de ma fille, est-ce que vous continuerez à m'accorder votre amitié? Si je vous dis que je ne suis qu'une femme égoïste qui a fait passer son travail avant sa famille, aurais-je toujours droit à votre sollicitude? Je ne connais peut-être pas grand-chose de vous, mais je sais reconnaître une personne égoïste quand j'en vois une. Et ce n'est pas ce que j'ai sous les yeux. Eh bien, vous avez tort. Lorsque ma fille est née, j'aurais dû changer de travail ou trouver un métier moins absorbant pour pouvoir être plus souvent avec elle. Mais non, j'ai choisi de continuer à faire mon boulot parce que j'aimais ce que je faisais. Et au final, un matin, alors que j'étais loin, elle est morte avec mon frère à la suite d'un accident de voiture, voilà. Je n'étais pas là. Je n'ai pas pu lui dire combien je l'aimais. Je n'ai pas pu. Malgré moi, je martèle Gwénolé de mes poings jusqu'à ce qu'il m'en serre dans ses bras.
Si je puis me permettre, si vous étiez aussi égoïste que vous le dites, vous ne seriez pas là à pleurer et à vous reprocher quelque chose contre lequel vous ne pouvez rien. Je suis sûre que votre fille savait que vous l'aimiez.
Meryl était une petite fille tellement joyeuse. Elle rêvait d'être chanteuse. Elle s'entraînait dur chaque jour. Mon frère Xavier l'avait surnommée Piaf. Donner des surnoms aux gens, c'était son truc. Je les ai perdus tous les deux en un quart de seconde. La veille, nous nous parlions au téléphone, mon frère et moi. Je lui faisais des reproches et le lendemain, il n'était plus là. C'était il y a un an. Et dans 3 jours aura lieu le procès de celui qui conduisait la voiture. Il est en vie, lui. Je ne sais pas si j'aurai la force d'y aller, je... C'est tellement douloureux,
je... Je comprends ce que vous ressentez. Ma femme est certes encore en vie, mais cela fait des mois que je l'ai perdue. Il n'y a rien de pire que voir partir des personnes qu'on aime. Assister à ce procès vous apportera peut-être une forme de paix.
Mais si ce n'était pas le cas,
est-ce que vous serez plus mal en point qu'aujourd'hui, à pleurer dans les bras d'un vieillard tel que moi?
C'est Gwénolé qui a raison. Pour Meryl et Xavier, je devrais y aller et affronter ce chauffard. Pour qu'il sache qui ils étaient. Qu'il voie tout le mal qu'il a causé. Et qu'il pourrisse en enfer. Mais comment trouver la force de le faire ?